Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à vous remercier pour cette première année passée ensemble, entre guillemets. Même si on a fait seulement 30 épisodes, j'ai eu de très bons retours concernant ces épisodes. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. C'est très gratifiant pour le travail que je vous ai dévoilé, que je vous ai publié. Donc c'est très très intéressant. Pour un peu vous donner un ordre d'idée, vous avez été plus de 1100 à m'écouter. Enfin, je trouve ça énorme en fait pour 30 épisodes. Donc c'est incroyable. Et figurez-vous, pour vous expliquer pourquoi je vais faire un épisode sur Air Liquide, c'est parce que les épisodes, en tout cas l'épisode que vous avez le plus apprécié, largement plus apprécié, c'était l'épisode sur Renault. Et je comprends pourquoi, tout simplement parce qu'il parle peut-être plus, et puis il était un peu plus peut-être ludique, enfin ludique non, mais les termes techniques utilisés, bah, j'en utilisais tout simplement moins en fait. Et puis je donnais mon avis sur l'entreprise, je donnais des perspectives sur cette entreprise. C'était un peu moins purement financier en fait. Il y avait un peu d'extra financier, un peu d'aspects de culture d'entreprise, etc., qui peuvent être un peu plus parlants et plus intéressants pour ceux qui s'y intéressent à la finance, mais avec aussi un côté un peu plus juste environnement économique plutôt que purement financier. Donc je comprends. Et tout simplement, en fait, j'ai décidé de faire toute la liste du CAC 40 comme ça, en analysant chacune des entreprises du CAC 40. Voilà, donc ça va dépendre. Je ne sais pas si je vais faire un épisode par jour pendant 30 jours, parce que pour vous expliquer mon absence. C'est vrai que j'étais absent pendant un long moment, un long laps de temps depuis cet été, tout simplement parce que je n'ai pas du tout trouvé le temps de faire ces épisodes. Là, je vais essayer de retrouver le temps, c'est pour ça d'ailleurs que je fais celui-ci. Mais je ne peux pas vous dire tout simplement le rythme encore que je vais établir, si c'est un par jour, ou si c'est un tous les 2 jours, ou si c'est un par semaine, je pense pas un par semaine non plus. Mais voilà, en tout cas, je vais revenir tout simplement. Là, on va faire toute la liste du CAC 40, c'est l'objectif. Il n'y aura pas d'autres épisodes entre deux, je pense. En tout cas, là, on va faire les 40. Je vais même refaire Renault, je vais faire toutes les entreprises que j'ai déjà faites. On va le faire sous le même format, en espérant que justement ça vous plaise. N'hésitez pas, déjà je vous le dis, à me donner vos retours et à donner vos idées pour d'autres formes, un peu que je change un petit peu la forme de mes épisodes. Donc comme je l'ai dit, peut-être un peu moins de trop technique, ou du moins un peu moins de technique pour les épisodes qui en nécessitent moins, et un peu plus de technique pour les épisodes qui en nécessitent plus. On va éviter de mélanger les concepts, éviter de mélanger les épisodes qui ne sont pas sur le même thème ou sur la même approche, pour essayer d'un peu d'homogénéiser les thèmes en fait et les catégories dans cette série d'épisodes de podcast. Donc voilà. Donc sur d'ailleurs vous êtes sur plusieurs plateformes, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur plein d'autres plateformes même gratuites. Donc ça c'est très très bien. Même sur des plateformes gratuites que mon épisode, mon podcast a été publié. Donc très intéressant dans plus d'une dizaine de pays. Ça c'est incroyable. Mais voilà. Donc je pense quand même en particulier des francophones, mais c'est très gratifiant encore une fois. Donc voilà, le Instagram c'est normal s'il y a un peu moins de contenu au fur et à mesure des épisodes qui vont sortir. Je pense que je vous tiendrai au courant quand même des sorties, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais le plus gros restera sur les plateformes d'écoute. Donc pour Air Liquide, alors comment on va procéder pour cette série d'épisodes? Tout simplement, on va procéder que moi je vais ouvrir, dans la manière que moi je vais ouvrir mon site d'analyse d'action. Donc je vais taper Air Liquide, etc. Et on va le faire en direct ensemble. Pour vous montrer quoi? Alors je ne vais pas vous montrer tout simplement que c'est simple d'analyser une action. C'est pas compliqué, mais c'est pas non plus simple. Je vais pas. Voilà. Mais c'est par contre assez simple de déceler les mauvaises actions. J'ai pas pris le meilleur exemple pour ça. Air Liquide, c'est une très belle entreprise, donc je vais avoir du mal à mal la vendre, même si encore une fois, c'est pas du tout un conseil en investissement financier, c'est juste un avis, et puis moi ce que j'en pense de ces perspectives, mais pas du tout un conseil en investissement. Donc c'est vrai qu'Air Liquide, c'est pas forcément le bon exemple pour vous dire que c'est un mauvais élève, mais ça va être pour vous montrer dans cette série que finalement, si j'analyse en live avec vous l'entreprise via mon site d'analyse. Bah en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, ce site d'analyse-là, vous pouvez le trouver en public. Hein. Ça peut être très bien Zone Bourse. Il y en a plein d'autres. Il y a même Boursorama Données d'Information, Morningstar, Yahoo Finance, MSN Finance. Tous ces sites-là donnent des informations. Mais après, si vous voulez pousser l'analyse plus loin, ce qui est très important, eh ben, vous pouvez le faire. Là, on va surtout se focaliser sur le côté performance financière et puis un peu les projets futurs, l'actualité pour les projets futurs. Donc Air Liquide, c'est vrai que c'est une entreprise leader sur son marché, depuis des dizaines d'années, même c'est une entreprise centenaire d'ailleurs, et qui agit notamment dans le domaine, donc c'est une entreprise de l'industrie chimique, qui agit dans le domaine médical, dans le domaine de l'agroalimentaire, même dans le domaine des énergies aujourd'hui, on va le voir dans l'aéronautique, où ils vont fournir des capacités d'hydrogène. Donc voilà, un peu pour vous situer Air Liquide, qui est leader d'ailleurs sur tous ces secteurs-là en général. Donc pour le répéter un petit peu, partout où vous voyez de la transformation qui va nécessiter un gaz particulier, un gaz industriel, vous êtes quasiment sûr qu'il y a du Air Liquide là-dedans. Ils sont quasiment partout dans la chaîne de fabrication de produits, à la fois en France mais également à l'international. Donc là, je suis sur le site et on va dérouler un petit peu toutes les données financières. Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise, si on regarde déjà dans un premier temps le PER, je la trouve un peu surévaluée. Pourquoi? Parce qu'on est sur un PER de 27, mais non pas juste parce que c'est un PER de 27, mais c'est parce que le PER historique est d'environ de 25. Pourquoi l'entreprise, on pourrait la payer un PER de 24, de 25? Parce que c'est une entreprise déjà qui se paye cher en général. Donc ça veut pas dire qu'elle est survalorisée quand elle est à 24, 25. Mais parce que vu que c'est une entreprise très bien gérée, vous allez le voir avec L'Oréal quand on fera un épisode sur L'Oréal, les entreprises très bien gérées ont souvent un PER très élevé. C'est pas forcément des dossiers qu'il faut écarter juste parce que c'est potentiellement survalorisé. C'est là où il faudra faire un peu la distinction. Ça peut être des très bons dossiers, mais juste parce que ils sont tellement bien gérés, leurs perspectives futures sont tellement bonnes, et bah c'est pas forcément un mauvais indice de voir un PER aussi important. Là, un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, le PER est de 27. Mais encore une fois, le PER est historiquement de 24-25, donc c'est pas forcément surévalué si on retombe sur des PER de 24-25. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore, encore par la suite? On a le nombre de titres en milliers que moi j'aime bien regarder. Donc là, je regarde, souvent je vous dis c'est bien quand il y a du rachat d'actions, mais là, on a typiquement l'exemple que le rachat d'actions, c'est pas forcément leur premier souci. On est passé de 517 000. Donc 517 000 cas actions en circulation en 2018 et on est passé à 522 000 cas en 2023. Donc vous voyez qu'on a augmenté, on va dire qu'on est resté stable quand même sur des volumes aussi importants. Et pourquoi c'est quand même un bon signe? C'est tout simplement parce que c'est pas forcément toujours bien et on le verra dans les entreprises par la suite dans la liste du CAC 40. C'est pas toujours bien d'avoir des entreprises qui rachètent leurs actions. Là, pour se concentrer sur le cas d'Air Liquide, on est sur une entreprise qui est en croissance, on est sur une entreprise qui a des rendements réguliers et qui verse des dividendes. Pourquoi s'embêter à racheter des actions? Le cours n'a pas besoin d'avoir une artificialisation de justement de piocher dans ses comptes, de racheter ses actions pour faire monter les cours. Finalement, tout le monde est content, les dirigeants sont contents, le cours monte et puis les actionnaires sont contents, le cours monte et les dividendes montent. Donc là-dessus, moi je comprends totalement la gestion du non-rachat d'actions, puisqu'on est sur une gestion totalement prudente. On est quand même sur une entreprise, je crois que c'est l'une des seules avec un actionnariat aussi fidèle. Et vous avez cette entreprise-là qui propose notamment du nominatif, c'est-à-dire que vous pouvez détenir directement les actions dans l'entreprise, donc dans Air Liquide. Votre PEA, votre compte titre, bah, c'est pas chez votre banque, c'est directement en fait vous avez un compte d'actions. Chez Air Liquide, et puis avoir un compte d'action chez Air Liquide, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais vous aviez à l'époque la possibilité d'avoir des dividendes, des actions de préférence ou un super dividende, je ne sais plus, en tout cas un privilège sur vos revenus, si vous avez une action en plus ou si vous avez un super dividende, dans tous les cas, votre rendement il est augmenté. Enfin, en tout cas, c'était super intéressant, ça permettait de vraiment fidéliser l'actionnariat sur Air Liquide, c'était vraiment, vraiment très important. Pourquoi je ne connais pas si c'est toujours d'actualité, tout simplement parce que je passe pas du tout par cette technique-là au nominatif. Voilà. Alors maintenant, parlons du chiffre d'affaires, qui va quand même être intéressant. Malgré que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément la donnée la plus importante, parce qu'on est quand même sur le secteur chimique. Et le secteur chimique, c'est pas le secteur avec le plus de marge. On l'a vu dans le passé, je sais pas si vous avez pu lire le livre de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui comparait souvent les secteurs technologiques avec l'industrie chimique, qui avait justement des PER super élevés dans les années 60-70, je ne veux pas dire de bêtises. Et finalement, les gens avaient beaucoup parlé sur l'industrie chimique, comme quoi ça allait révolutionner le monde, etc. L'industrie chimique n'a pas eu les résultats escomptés, donc elles n'ont pas délivré aux actionnaires les résultats escomptés, et donc les entreprises se sont écroulées. Donc il faut faire attention en fait aux marges, parce que justement les résultats n'étaient pas assez bons. Quand je dis résultats, c'est vraiment le bénéfice, hein. Donc c'est pour ça que c'est important dans l'industrie, notamment chimique, surtout que c'est une entreprise qui est assez ancienne, ça fait longtemps que le cours monte, on peut sur être une longue traîne qui peut se transformer justement en cassure, qui peut la traîne peut se stopper. A priori, c'est pas forcément pour tout de suite, parce que notamment. Je vais vous en parler après, je vais pas me mélanger. Alors, on constate que le chiffre d'affaires entre 2018 et 2023 est relativement stable, mais quand même en croissance constante. Il est passé de 21 000 en 2018 à 27 000, à 29 000, pardon, en 2022, avec une projection à 27 000 en 2023. Pourquoi 27 000 en 2023? Donc, ce dont je voulais vous parler justement, je vais vous en parler maintenant. C'est parce qu'on a un effet, en fait, de déstockage. Là, en cette fin d'année, et puis en projection sur l'année prochaine, un effet de déstockage qui fait que les matières premières, eh ben, baissent. On a vraiment une désinflation de ces matières premières, et plus que l'entreprise Air Liquide n'agit pas forcément sur la transformation, mais surtout sur les matières premières, eh ben, on a cet effet de désinflation notamment. Et puis, pourquoi on aura aussi cet effet-là? C'est qu'on a en 2022 une année exceptionnelle par rapport à 2020 et 2021. Vous voyez, on est passé de 2020 à 20 000, et on est passé à 2022 29 000. Et donc en fait c'est une année exceptionnelle qui ne pouvait pas être garantie forcément dans les années futures. Il fallait pas s'attendre en 2022 qu'on allait avoir une projection en 2023 égale. C'est comme justement ça l'explique dans le livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. On avait des projections des bénéfices du chiffre d'affaires, faut pas confondre, pardon, chiffre d'affaires qui était en projection ultra constante, en croissance constante vraiment sur le long terme. Bah, finalement non, il y avait eu des années exceptionnelles, je sais plus, c'était 1967, 1968. Qui étaient des années exceptionnelles pour ces entreprises-là chimiques. Finalement, les entreprises n'ont pas pu suivre la cadence et forcément leurs projections étaient un peu biaisées. Donc voilà. Donc 29 000, c'était un peu important. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va reprendre par rapport à 2021. Sur 2023, on passe de 23 000 à 27 000 en 2023 sur projection, donc en estimé. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur une croissance. Moi je préfère regarder sur ce plan-là plutôt que de passer de 2021 à 2022 et 2022 à 2023. 2023 en plus on a une relance importante de l'économie, une réouverture des économies, une inflation importante suite au conflit, etc. Donc c'est pas forcément l'année la plus importante comme 2020, on a eu des gros cracks sur toutes les industries. Donc en ce moment on est un peu sur des économies qui sont en dents de scie. Donc important de prendre sur le long terme, faites sur 5 ans, lissez sur 5 ans un peu la performance. Moi quand je regarde sur 5-6 ans, on est sur une tendance vraiment long terme qui est très intéressante. On est quand même passé de 21 000 en 2018 à 29 000 en 2022. Et si je veux pas prendre 29 000, on est passé de 21 000 en 2018 à 23 000 en 2021 à 27 000 sur projection en 2023. Donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Maintenant, au résultat net, ce qui est très important pour une entreprise de l'industrie chimique, on est passé de 2113 en 2018 à 2759 en 2022 et sur projection à 3384. Qu'est-ce que ça nous apprend cela? Encore une fois, lissé sur 5-6 ans, on nous apprend qu'on est quand même sur une croissance qui est constante, avec une marge d'environ 10%, 12%. Donc c'est très très correct pour une entreprise du secteur chimique. Qui plus est d'une entreprise du secteur chimique, une entreprise française du secteur chimique, parce qu'il faut savoir que les marges sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus compliquées à atteindre des marges comme celle-ci dans l'industrie pour les entreprises françaises, car la compétitivité est beaucoup moins importante. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on arrive à atteindre cette compétitivité juste après. Donc voilà, donc on a une marge assez lisse dans le temps, on n'a pas la projection en pourcentage, on n'a pas la croissance en pourcentage de cette marge, mais notamment par contre en termes de résultats, on est sur des volumes très importants, donc je vous l'ai dit, une croissance assez importante. Ici on prend sur entre 2021 et 2023 sur projection, on est sur quelque chose de très très intéressant. Il prévoit notamment, alors ça c'est une marge plus importante en termes de pourcentage. Pourquoi? On a un chiffre d'affaires qui est prévu en baisse, mais on a un résultat qui est prévu en hausse par rapport à 2022. Donc ça j'attends de voir. J'attends de voir comment ils auraient réussi à couper les coûts. Parce que ça pour moi c'est une projection qui est un peu ambitieuse. Encore une fois, c'est des estimés, hein, des analystes. J'attends de voir. Franchement, je ne me baserai pas là-dessus. Parce qu'on est sur des années compliquées, on va avoir des entreprises en difficulté qui vont réduire les coûts. Donc là-dessus, je me projetais. Je sais qu'ils vont faire une belle année, Air Liquide, j'en doute pas. Mais de là à garantir une augmentation du bénéfice en passant de 9 à 12%, je ne parierais pas là-dessus. Honnêtement, je ne parierais pas là-dessus. Alors maintenant, pourquoi une entreprise telle que Air Liquide arrive à garantir ce côté compétitif comparé aux autres entreprises françaises et peut-être d'autres entreprises du secteur chimique comme BASF, etc. Pourquoi? Comment c'est possible? BASF ou ligne de LINDE en Allemagne. Tout simplement parce qu'on est sur des actifs qui sont investis dans les pays étrangers. On a beaucoup d'usines Air Liquide qui sont un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est ça comment dire, la magie de la rentabilité des entreprises françaises. C'est qu'en fait, on essaye aujourd'hui de rejouer sur la relocalisation pour essayer de retrouver notre compétitivité. Alors qu'en réalité, c'est bien d'avoir un mixte. La relocalisation, c'est vrai qu'Air Liquide a des entreprises, a des bureaux, a des usines en France, mais également beaucoup d'usines dans les pays étrangers. Alors pourquoi c'est bien? Parce qu'on peut exporter ces capitaux-là et les ramener en France. Justement, avoir des entreprises, par exemple aux États-Unis, qui nous rapportent davantage avec des marges beaucoup plus importantes, avec une capacité de développement commercial beaucoup plus importante. Et finalement, c'est Air Liquide qui ramène ce bénéfice au sein de ses actionnaires, donc dans ses rapports, lors de la clôture et de la présentation aux actionnaires. On est sur une entreprise qui génère beaucoup plus de chiffres, avec une rentabilité plus importante, parce qu'elle a beaucoup plus de flexibilité, plutôt juste de dire qu'il faut ramener les entreprises en France. C'est pas forcément la meilleure solution. Vous voyez, la preuve est là en fait. C'est que finalement, on a des entreprises qui sont assez agiles et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui avec un monde assez instable, c'est de pouvoir s'adapter. Si demain le marché en Inde il fonctionne bien, c'est bien de s'installer en Inde, d'avoir cette compétitivité-là, d'avoir cette agilité-là et puis de pouvoir justement ramener les bénéfices chez nous. Finalement, le truc le plus intéressant, c'est que le siège à Paris investisse les capitaux dans les pays étrangers et qu'il ramène chez nous, enfin à Paris, pour le compte d'Air Liquide, les bénéfices finalement. Ça, c'est quand même la chose la plus intéressante qui puisse se faire. C'est pour ça qu'on a une rentabilité assez importante, en partie de la part d'Air Liquide. Puis également, on a également une gestion des coûts qui est très intéressante. Alors, maintenant, on va parler du BNA, qui pour moi est l'une des choses cruciales à analyser lorsqu'on est une entreprise. L'entreprise cotée en bourse, c'est que lorsque l'on est actionnaire, c'est l'une des premières choses que l'on doit regarder. Pourquoi? Tout simplement parce que le BNA, c'est ce qui va nous permettre de voir par rapport à lorsque je vais acheter une action, ou 10 actions, 20 actions, combien de bénéfices est partagé entre toutes les actions. En gros, quelle part de gâteau je vais avoir, quoi. Parce que j'achète une action, je vais avoir, par exemple en 2018, j'achète une action, je vais avoir 4 € de bénéfices pour une action. Je vais avoir en 2022 5,28 € de bénéfices pour une action. Et en 2023, 6,48 € de projeté en estimation donc de bénéfice par action. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous ai dit juste avant, souvenez-vous bien, que on n'avait pas de rachat d'actions de prévu sur Air Liquide, même sur 2023. En tout cas, du moins, moi, je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant de ça. Ce qui veut dire quoi? C'est dire qu'on a un bénéfice par action qui augmente sans avoir de rachat d'actions. C'est là où c'est important, parce que vous allez voir dans d'autres entreprises que l'on va, dans d'autres épisodes que l'on va tourner, que je vais vous publier, on va avoir un bénéfice par action qui va augmenter, mais il va augmenter, entre guillemets, pas artificiellement, mais vous l'avez compris, grâce à un rachat d'actions. Parce que s'il y a moins d'actions en circulation, on a un bénéfice par action qui augmente. C'est mathématique. Donc c'est pour ça que là, il faut faire extension, et c'est pour ça que là, moi, je suis content. Parce qu'on a un bénéfice par action qui n'augmente pas beaucoup, finalement, mais tout simplement parce qu'on a des actions qui, en nombre, même augmentent si on y va vraiment dans le détail. Donc là-dessus, c'est très intéressant. On est passé de 4 € en 2018 à plus de 5 € en 2022, avec une projection à 6,46 € en 2023. Encore une fois, je mettrai des pincettes sur le 6,46 € parce que pour moi, la projection du bénéfice, avec le déstockage qu'il y a sur les matières premières. Après, c'est vrai qu'ils ont des projets dans l'hydrogène qui sont ultra innovants, mais avant que les actifs soient rentables, il faudra un peu de temps quand même, à mon avis, que les actifs soient rentables, parce que là, même on parle en 2024 de 12,7%, 2025 13% de marge. Je mettrai un peu de pincettes parce qu'on va quand même avoir des années un peu compliquées dans le futur, hein. Donc là-dessus, je sais pas. Là-dessus, je sais pas, je sais pas du tout. Après, encore une fois, pour un investissement long terme, c'est pas du tout dans ces détails-là qu'il faut regarder, hein. Il faut regarder vraiment le profil de l'entreprise, comment elle a géré les crises et les années précédentes. Enfin, c'est plutôt là-dessus qu'il faut regarder. Maintenant, au niveau de la dette. niveau de la dette, qui est quelque chose d'important à voir en ce moment, notamment avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. C'est important de dire ont augmenté, parce qu'apparemment, ils ont prévu de ne plus les augmenter. Bon, à voir. On est aussi sur une entreprise qui, je tiens à vous préciser, lève des capitaux d'une manière ultra intéressante, parce qu'elle a un très bon rating de la part des agences de notation, c'est-à-dire que lorsqu'elle va émettre de la dette à travers des obligations, parce que vous avez des entreprises qui peuvent émettre des obligations pour se financer d'une autre manière, et ben vont avoir des taux très intéressants et leurs levées de fonds à chaque fois elles sont réussies. Donc je crois que c'était 600 millions d'euros, peut-être que je me trompe, en tout cas je m'avance pas forcément sur le montant, c'est pas le plus important, mais surtout ça montre que cette levée a été un réel succès et ça montre deux choses. Tout d'abord la solidité, mais également la confiance que donnent les investisseurs et puis les fonds d'investissement, tout simplement, à cette entreprise, à cette action, et puis aussi la constance de sa gestion, de ses dirigeants, dans justement l'aventure de cette entreprise, l'aventure de ce business. Maintenant, si on se concentre vraiment purement sur la dette, on est sur une dette qui est assez stable, en légère baisse entre 2018 et 2022. On constate en 2018 12 000 de dettes, et on constate en 2022 10 200, et pareil en 2023. Encore une fois, je ne me concentrerai pas sur 2023, parce que j'ai vu passer qu'il n'y avait jamais eu autant de projets pour Air Liquide, et qui dit projet dit forcément investissement. Donc, Air Liquide, je ne suis pas du tout inquiet sur la gestion des investissements et sur la gestion de la dette, mais c'est plutôt de voir comment on va être financé, comment vont être financés ces investissements. Et puis voilà, donc sur 2023, je me projetterai pas, mais en tout cas, on est quand même sur une dette qui est stable et en légère diminution. C'est très important d'avoir une dette en diminution en ce moment. Pourquoi? Malgré que l'on soit apparemment arrivé sur le pic d'inflation, et qui dit pic d'inflation dit en théorie la baisse des taux d'intérêt, non, pas forcément parce que c'est le pic d'inflation, mais c'est parce qu'on va également arriver dans une certaine période, peut-être avec un air de récession. Je ne sais pas si on va arriver en récession, mais en tout cas potentiellement en air de récession. Qui dit air de récession, eh ben, les économies vont essayer de relancer leur économie, et les politiques monétaires sont émises par les banques centrales. Et qui dit banque centrale dit baisse des taux pour essayer de restimuler la consommation. Donc qui dit restimuler la consommation veut dire également restimuler l'investissement. Et donc ça pourrait être un plus intéressant de lever de la dette dans ces moments-là. Mais bon, pour le moment, tant que c'est pas arrivé, tant que les banques centrales ne se sont pas exprimées sur ce sujet-là, on ne va pas faire les plans sur la comète. On va avoir une gestion prudente. Et puis on va regarder ce qu'il en est. Là aujourd'hui, on est en légère baisse. Donc c'est important parce qu'il faut savoir que les revenus et les bénéfices futurs sont calculés avec un taux d'actualisation. Un taux d'actualisation, en gros, pour vulgariser le truc, ça prend en compte les taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt sont importants, plus les bénéfices futurs sont bas, pour vulgariser la chose. Donc c'est très important d'avoir soit les taux d'intérêt qui baissent, soit la dette qui baisse. Et voilà, en fonction de ça, on va avoir des revenus mathématiquement plus importants. En termes de ROE, ensuite, pardon, en termes de ROE et de ROA, donc return on equity, donc le résultat net sur les capitaux propres, et le ROA, le résultat net sur le total des actifs. Là, on va être sur quelque chose pour les gens qui ont envie un peu plus de s'intéresser à l'analyse financière. En tout cas, pour vous dire qu'on est quand même sur une entreprise qui a des ROE et des ROA qui sont très intéressants. On est sur du 12%, 13% pour le ROE, et on est sur du ROA à 5%, 5-6%, donc c'est très très intéressant. Là-dessus, je me concentrerai pas plus, mais c'est-à-dire qu'on est sur tout simplement le ROA, c'est-à-dire qu'on a des actifs qui sont rentables, et ça c'est important d'avoir des actifs rentables tout simplement dans l'industrie. Ça veut dire que nos investissements ne sont pas faits en vain, c'est-à-dire qu'on a du bénéfice en plus par rapport aux investissements qu'on fait, donc c'est très intéressant. Donc en termes de CAPEX, en termes de pourcentage du CAPEX par rapport au chiffre d'affaires, on avait vu tout à l'heure qu'on avait un chiffre d'affaires qui baissait en projection sur 2023. Et donc mathématiquement, vu que c'est le CAPEX sur le chiffre d'affaires, vu qu'on a un CAPEX qui diminue, notre dénominateur est plus petit, c'est-à-dire qu'on divise avec moins, et donc c'est-à-dire que notre pourcentage augmente parce qu'on a un CAPEX qui lui est régulier. Donc en fait, c'est tout à fait normal que l'on qui nous affiche ce pourcentage plus élevé par rapport à d'habitude, parce que vous voyez, ça m'a tout de suite interpellé de voir 10% en régulier et d'avoir 12%, surtout que 12%, ça commence à arriver à être important. 10%, c'est déjà important en soi pour un chiffre d'affaires aussi important. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une entreprise avec toujours de la croissance. On n'est pas du tout sur une entreprise qui est sur des produits qui sont matures. Le produit en tant que tel est un produit mature, mais finalement le business model d'Air Liquide est en forte croissance avec le pourcentage de CapEx sur le chiffre d'affaires. Il est quand même assez colossal en termes de volume, hein. En termes, ouais, il est quand même important. Donc sur 2023, je ne me projetterai pas non plus, je ne donnerai pas du tout un avis confirmé sur ce qui se passe en termes de CapEx sur 2023. Pour moi, on aura des révisions là-dessus. Et quand on regarde les analystes par rapport au réel, ils ont raison 4 fois et ils ont tort 2, 4, 6, 7 fois. Donc à voir, franchement, à voir, à voir, à voir. Pour résumer un petit peu la chose, c'est vrai qu'Air Liquide, du coup, c'est une entreprise qui est très intéressante, très attirante, très attrayante aussi en termes de rendement. D'ailleurs, j'ai pas parlé du rendement, parce que finalement, sur Air Liquide, il ne m'attire pas trop. Mais bon, c'est que mon jugement personnel. On est sur du 2,4, 2,1%. Donc on est sur du 2, on va dire 2,2% de rendement, donc de dividendes, qui il n'y a aucun problème. La sécurité du dividende, elle est assurée parce qu'on a quand même un BNA, donc un bénéfice par action qui est largement supérieur au dividende versé. Donc là-dessus, je suis pas du tout important. Je suis pas du tout inquiet, pardon. On est sur un payout ratio de 56, 53, 53. Ouais, on est sur du 54-55% de payout ratio, qui est pas mal. Franchement, pas mal, pas mal. Donc on est sur un rendement de 2,4%. Voilà. Alors, c'est correct pour l'industrie. Et puis je reviendrai pas du tout vraiment plus en détail sur le rendement d'Air Liquide. Alors, pour terminer sur cette conclusion, donc on est sur une structure financière qui est très bien gérée. Vous voyez, la gestion de la dette, elle est correcte. La gestion business en tant que telle, elle est vraiment plus que correcte. On a des projets futurs qui sont colossaux. Et puis on a un management, voilà, qui gère bien la boîte. C'est un exemple de gestion Air Liquide. Franchement, c'est un exemple. Après, il y a plein d'autres entreprises qui sont très bien gérées. Mais c'est même quand on étudie cette entreprise-là, même extra-financièrement parlant, c'est très instructif de s'y intéresser à cette entreprise-là. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. N'hésitez pas également à vous abonner sur Instagram pour être au courant des derniers épisodes qui vont sortir. Puis n'hésitez pas à me dire également s'il y a des modifications dans la forme, dans le fond que vous aimeriez, des idées également d'épisodes que vous aimeriez avoir. Et puis, il y aura forcément des petits projets qui vont arriver par la suite. J'espère. En tout cas, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux pour cette nouvelle année qui va arriver, même si elle n'est pas encore finie. Et puis voilà. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir fait ces 20-30 épisodes, ces 20-30 premiers épisodes, parce qu'il y a eu des bons retours, beaucoup d'écoute, beaucoup, beaucoup d'écoute. C'est très gratifiant. Je vous remercie encore pour ça. Et puis voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'écoute que d'abonnés, donc que de personnes qui sont qui suivent directement le podcast. Donc voilà, c'est un peu troublant au début. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire pour vraiment être au courant des derniers épisodes. Je vous remercie, et puis je vous dis à plus pour le prochain.